Languedoc, 98.5, nous sommes avec Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières et également ancien secrétaire général Adicias.
Adicias.
Monsieur Ménard, donc Reporters sans frontières, on va parler aujourd'hui donc de la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est aujourd'hui. Cette journée déjà, avant de parler de RSF, qu'est-ce que ça représente évidemment pour vous? Vous étiez voilà le fondateur de RSF, qu'est-ce que ça signifie?
D'abord, c'est une idée de Reporters sans frontières que l'UNESCO a repris en choisissant cette date-là. On en avait choisi une à la fin du mois d'avril. C'est un moment important parce que ça permet de rappeler à tout un chacun que même si on est exaspéré, en particulier dans les domaines de démocratie, par le comportement des journalistes, par leur parti pris, par leur bien-pensance, il reste qu'ils sont indispensables. Indispensables au fonctionnement de démocratie libérale comme on l'entend et à laquelle on est attaché. Voilà, c'est l'occasion aussi, je le sais parce que je l'ai fait pendant des années tout, d'obtenir dans un certain nombre de pays des libérations, des changements dans les conditions de détention, d'amélioration des conditions de détention. Tout un tas de gens qui veulent se faire pardonner, là on ne parle plus des démocraties occidentales, mais on parle de tout un tas de régimes plus ou moins brutaux. Leurs dirigeants souvent sont soucieux de leur image de marque, c'est d'ailleurs ça le principe de Reporters sans frontières, leur faire de la mauvaise publicité, et donc de temps en temps, à l'occasion de cette journée, ils sont prêts à faire des gestes, à libérer, à changer telle ou telle loi, à prendre telle ou telle mesure, et donc c'est toujours ça de gagner pour les victimes de ces régimes-là.
Comment est-ce que c'est venu justement cette idée à la base de bon, évidemment, il y a eu la création donc, de Reporters sans frontières, mais pourquoi il y a eu cette idée de justement à un moment donné de faire une journée comme ça, voilà, où on met en lumière la liberté de la presse? Est-ce qu'il y avait eu à l'époque justement des gestes qui avaient été posés, qui ont fait en sorte que là il faut qu'on fasse quelque chose pour démontrer cette liberté de la presse? Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
Ça a été une question d'efficacité. Quand vous pouvez mobiliser tout le monde, les différents États, les structures internationales, je vous rappelle les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté une année une résolution que nous avions rédigée avec le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français qui avait été adopté au Conseil de sécurité. Chaque fois, c'est l'occasion, voilà, de mettre les forces de tout le monde en commun et d'obtenir des résultats. C'est l'approche de Reporters sans frontières, c'était une approche très pragmatique, je dirais, très anglo-saxonne. Les Français, ils sont toujours dans des grands débats. Vous savez, qu'est-ce que c'est la liberté de la presse et tout? Tu peux en discuter 20 ans et faire 2000 colloques et tu ne seras pas d'accord. Mais on n'était pas du tout allé dans une approche comme ça. Moi, j'étais beaucoup influencé par l'approche nord-américaine de la liberté d'expression. C'est-à-dire, on ne fait pas de grandes dissertations sur ce qu'est la liberté d'expression et c'est la liberté de la presse, mais on essaie de définir ce que sont les atteintes à la liberté de la presse. C'est une démarche anglo-saxonne. Au lieu de parler en positif, vous approchez en négatif. Si on n'est pas d'accord de ce que c'est quelque chose, on peut être d'accord sur ce que sont les atteintes à ce quelque chose. Un journaliste qui est emprisonné, une censure mise en place, un contrôle du papier pour les journaux, autant de mesures qui sont des atteintes à la liberté d'expression et la liberté d'expression des journalistes, au-delà de la liberté de la presse. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette journée. C'était pour sensibiliser l'opinion publique. C'est un outil important. Il y a beaucoup de journées, il n'y en avait pas autour de la liberté d'expression, et il me semblait que c'était essentiel, et ça a eu un succès immédiat, immédiat.
On va parler évidemment des répercussions qu'il y a en ce moment. On a vu qu'il y a des tensions dans le pays depuis de nombreuses années. Il y a une méfiance envers les médias, envers les journalistes. On va en parler un petit peu après. Mais justement, on va rappeler Reporters sans frontières, sans frontières. D'où c'est venu cette idée justement de... Est-ce que c'était... On commence par parler d'abord des journalistes, de cette liberté de la presse chez nous, ou d'abord on s'est concentré justement sur ce qui se faisait à l'extérieur justement de la France.
Mais c'était un reproche qui a longtemps été fait à la Santé, c'est-à-dire qui était infondé. Évidemment, on discutait d'abord de ce qui se faisait loin de la France, parce que je veux bien qu'il y ait des atteintes à la liberté de la presse en France, des pressions et tout, mais attendez, pardon, on a aujourd'hui une discussion tous les deux sans état d'âme, ni vous ni moi n'avons à avoir des soucis. Pardon, je vous rappelle que dans tout un tas de pays, une discussion de ce type-là sur les autorités du pays en question, vous vaudrez des ennuis et me vaudrez des ennuis. C'est ça la différence. Mmh. Moi, je suis sidéré souvent des espèces d'inconscience d'un certain nombre de journalistes qui confondent tout. Je veux dire, quand il y a les mots d'un sens, quand j'entends parler d'une dictature en France, quand j'entends parler de menaces sur la démocratie en France et tout, j'appelle à se calmer, à se calmer. Monsieur Macron, on peut en penser ce qu'on veut, il n'est pas attentatoire à la liberté d'expression. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Oui, il y a le poids de l'argent, il y a des concentrations incroyables, il y a des médias qui vivent sous perfusion de l'État et des collectivités publiques, des collectivités locales et territoriales. Oui, c'est des menaces, c'est des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Oui, moi je ne suis pas content du fonctionnement des médias publics, par exemple, dont je me dis que c'est invraisemblable qu'ils existent pas même. Je pense qu'il faut plus qu'il y en ait. Mais ça, c'est un certain nombre là. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec la situation, je sais pas, en Érythrée, en Chine ou au Zimbabwe. Il faut pas déconner, quand même. Juste, il faut pas, on peut pas confondre une chose et une autre. Voilà. Et oui, alors, Reportage Soudain, on s'est d'abord occupé du reste du monde. Mais aussi, on s'est intéressé à ce qui se passait en France. On a créé, à un moment donné, une revue qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Média, et qui avait pour vocation, c'est un trimestriel, vous avez compris, de traiter plus les questions de liberté d'expression dans nos démocraties qui connaissent des difficultés, qui connaissent des limites, et qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas la même que celles de régimes brutaux ou dictatoriaux.
Les atteintes à la liberté de la presse ne sont absolument pas les mêmes dans les régimes totalitaires et nos démocraties. Il y en a, mais ben, c'est pas tous les mêmes.
Bien sûr. Attendez, aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes en prison en France. Attendez, il y en a en Turquie, pour pas aller chercher plus loin. C'est juste qu'à différence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en France. Moi, en France, il y a de vrais soucis sur la liberté d'expression. Il y a une espèce, la liberté de la presse. Il y a une attitude un suivisme par rapport à un certain nombre de points de vue, d'idées qui sont problématiques. Je vois même un certain nombre d'organisations s'élever contre les attitudes, les menaces sur tel ou tel journaliste, mais en même temps ne pas s'inquiéter de ce qui a été fait à un journaliste comme Éric Zemmour et les menaces qu'on posait sur lui. Il y a un deux poids deux mesures. Il y a comme toujours, quand c'est la gauche qui s'empare de ces combats-là, quand j'étais patron de Reportage Sans Terre, j'étais d'abord déjà de droite, c'était pas, on jugeait pas les gens en disant la gauche est respectueuse de la liberté de la presse et la droite est un problème. Et donc les médias, on ne défendait pas que les médias de gauche. Là, il y a aujourd'hui une espèce de tropisme qui fait que quand c'est des journalistes ou des médias très très à droite, on n'a pas la même capacité à se mobiliser pour pas être plus méchant.
On dit normalement que les journalistes sont supposés être, alors, non pas neutres, mais objectifs, que les médias sont supposés suivre les faits, seulement les faits. Dans la réalité, voilà, chaque média a sa propre ligne éditoriale, on va dire ça comme ça. Chaque journaliste a ses propres opinions, ses propres convictions. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, justement, une certaine, je fais attention en disant ça, une certaine limite à la liberté de la presse?
Écoutez, regardez la presse régionale. Vous êtes dans la même région que moi. Regardez le groupe La Dépêche. Le groupe La Dépêche, il vit sous perfusion des aides de l'État et des collectivités territoriales, et en particulier de la région. Vous avez vu ce que la région déverse sur un groupe comme le groupe La Dépêche. Sans oublier que c'est ce même groupe qui imprime d'ailleurs le journal de la région. Et évidemment, ça a des répercussions sur ce qu'il y a dans ce journal-là et dans ces journaux-là. Je veux dire, c'est les journaux de la présidente de la région. Évidemment, ça saute aux yeux de tout le monde. Et quand je le dis, je trouve que les journalistes de ce groupe, du groupe de presse La Dépêche, devraient applaudir à mes propos. Et je le dis pas parce que je suis aujourd'hui un homme politique de cette région engagé, en l'occurrence, avec un certain nombre d'idées que tout le monde connaît, mais simplement parce que je suis sidéré du brossage de pompe auquel sont contraints un certain nombre de journalistes de midi de la Dépêche ou de l'Indépendant dès qu'il s'agit de la région, parce que la région est fournisseur de beaucoup d'argent pour le groupe La Dépêche. C'est ça les problèmes de cette presse. Et cette presse, ça en fait des journalistes qui font pas leur job, qui ne font pas leur job. Aujourd'hui, je dirais même que sur un certain nombre de questions, les principaux ennemis d'une information de qualité, ce sont un certain nombre de journalistes. Il y a un certain nombre de journalistes qui se sont transformés en espèces de bras armés, de bras, pas armés puisqu'il n'est pas armé, de bras idéologiques du pouvoir national ou du pouvoir régional. Bien sûr, moi je pense que les journalistes, alors qu'ils étaient les défenseurs, par exemple, des plus pauvres, des plus esselés, des personnes les plus en difficulté, se transforment en les défenseurs de ceux qui sont du bon côté du manche.
Est-ce que ça devient... De toute façon, l'information se transforme en pure communication.
Mais pas seulement, elle se transforme en quelque chose qui défend le système en place, qui défend les gens qui en sont porteurs. Je veux dire, moi, j'ai ricané à la télévision hier ou avant-hier, on m'a dit, ah oui, Monsieur Macron a fait, vous savez, le choix de faire cette dernière communication, pas dans une radio ou à la télévision, mais dans la presse quotidienne régionale, parce que, pensent-ils, ces gens-là, la presse quotidienne régionale serait plus proche des gens que la presse nationale, mais c'est une vue de l'esprit, c'est une vue parisienne. La presse régionale, elle est aussi loin des préoccupations du peuple que l'est la presse nationale. C'est pas parce que vous êtes à Montpellier ou à Béziers, ou à Toulouse ou à Montauban, que vous êtes un journal plus proche des gens. Ah, évidemment pas, vous êtes un journal plus proche du petit monde bio, du petit monde politique, et surtout du petit monde politique qui pense la même chose que vous. Ça saute aux yeux à la lecture de tous ces journaux.
Donc là, actuellement, comme on disait tout à l'heure, voilà, les atteintes à la liberté de la presse n'ont rien à voir entre la France, en tout cas les pays démocratiques, et les pays totalitaires, les dictatures. Mais du coup, dans ces démocraties, il peut y avoir des excès, on va dire, de la part justement de cette même presse, qui se croit pas forcément intouchable, mais fait un peu ce qu'elle veut.
D'abord, elle pense que dès qu'on dit un mot critique sur des journalistes, et Dieu sait, je suis en train de vous en dire, il y a toujours des journalistes qui vont dire, mais c'est une atteinte à la liberté de la presse. Mais coco, on peut critiquer les journalistes, on a le droit de critiquer les journalistes comme vous. Votre devoir, c'est de passer au peigne fin ce que font les politiques. Tous les politiques, pas que vos ennemis politiques, parce que les journalistes, ils ont des idées, ils ont des choix politiques. On sait très bien que la gauche dans les médias, elle est omniprésente, et pas seulement au niveau des éditorialistes. C'est d'ailleurs moins vrai aujourd'hui au niveau des éditorialistes. On a une presse qui n'est pas une presse d'information, qui est une presse d'opinion, qui ne le dit pas, qui ne veut pas le dire, mais qui l'est. C'est ça la réalité. Le reste, c'est du baratin. Mmh.
Là, maintenant, vous, ça fait déjà quelques années que donc, vous avez laissé Reporters sans frontières. Vous avez quitté parce que voilà, il était temps. C'était voilà, vous avez fait ce que vous avez.
J'avais envie de faire autre chose. J'avais 55 ans. Il était temps d'imaginer une autre partie de ma vie.
Maintenant.
Mais j'ai été heureux. J'ai été heureux. Et ça a été un grand moment de ma vie. 20 ans utile dans ma vie. J'espère utile aux autres.
Comment vous regardez maintenant? Avec un petit peu de recul maintenant, justement, un, ce que vous avez accompli au cours de ces décennies de mandat à RSF, et où on en est maintenant, justement, avec RSF et la situation actuelle de la liberté de la presse, que ce soit en France ou dans le monde.
Trois questions. J'espère que j'ai fait des choses utiles. Écoutez, moi, je pense que chaque fois que vous sortez quelqu'un de prison, c'est concrètement changer la vie de quelqu'un. Moi, j'ai encore des gens qui m'appellent des quatre coins du monde pour me dire un mot gentil parce que ils ont le sentiment que si à un moment donné ils sont sortis de prison, ils le doivent à Reporters sans frontières et un peu aussi à celui qui en était le patron. Donc voilà, et ça c'est un bonheur incommensurable parce que c'est quand même ça les droits de l'homme. C'est pas des grands discours, c'est pas des colloques, c'est sortir des types des prisons et des geôles dans lesquels ils sont. Ça c'est la première partie de votre question. La deuxième partie de la question, je ne fais jamais de commentaires sur Reporters sans frontières, donc je n'en ferai pas plus aujourd'hui que je n'en ai jamais fait depuis que j'ai quitté Reporters sans frontières. Troisième point, sur la liberté de la presse, à la fois, elle se porte mieux, les régimes dictatoriaux sont moins nombreux qu'ils l'étaient il y a 40 ans ou qu'il y a 20 ans. En même temps, elle connaît des limites qui sont de nature différente, on y a fait allusion. Aujourd'hui, quand vous voyez comment un certain nombre d'États ont accepté ou délégué, la France en fait partie, un pouvoir, une espèce de pouvoir de censure aux grands patrons d'Internet et des réseaux sociaux, c'est un vrai problème. C'est un problème de nature différente. On ne met pas les journalistes en prison, mais on demande à un certain nombre de gens qui ne devraient pas avoir à le faire, de dire ce qui est acceptable ou pas acceptable d'être publié sur leur réseau. C'est pas à Facebook ou à Twitter de dire ce qui est acceptable ou pas. Il y a des lois pour ça. Là, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gouvernements qui se disent ils n'ont qu'à faire le ménage, mais ils n'ont aucune raison de le faire. Et puis, ça permet aujourd'hui de voir des choses absurdes. Moi, mon épouse, donc vous savez, qui est députée, s'est vue interdite de Twitter pendant un an pour s'être moquée de façon ironique, vous savez, de madame, comment elle s'appelle, cette jeune femme, l'icône, j'en oublie son nom, Greta, la jeune Greta. Ça, voilà, comment elle s'appelle, Greta
Thunberg, ouais.
Thunberg, voilà, pour s'être moquée d'elle en disant qu'elle méritait bien une fessée, parce qu'on venait de voter l'interdiction de la fessée en France la semaine avant. C'était évidemment une image, elle a passé des mois sans Internet, sans avoir accès à son compte Twitter. Mais enfin, attendez, mais qu'ils aillent se faire voir, qu'est-ce que c'est ce monde où les gens, derrière leurs écrans, peuvent décider de ce qui est acceptable, ironique, souhaitable ou pas souhaitable. C'est intolérable. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec des journalistes torturés, ça n'a rien à voir avec des journalistes enterrés, vivants. J'en ai vu dans un certain nombre de pays. Ça n'a rien à voir avec un certain nombre de journalistes malmenés ou tués.
Pour conclure, M. Ménard, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette journée, donc aujourd'hui, de cette journée mondiale de la liberté de la presse?
Je dirais ironiquement, mais vous n'allez pas me censurer, vous, que voilà, que même si on est agacé, on a toutes les raisons de l'être agacé, des journalistes qu'on rencontre au quotidien, de la couverture de l'information au quotidien, dans nos médias mainstream, pour parler... Pour employer un mot qu'on emploie tous, voilà, même si on a tout cet agacement-là et tout, il reste que la liberté d'expression et donc la liberté de la presse, elle est indispensable.
Monsieur Ménard, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et puis je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Au revoir.